Ce podcast du OFF 2018 vous est offert par la Maïf, assureur du Festival d'Avignon.
Osmose. Osmose Radio.
La web radio du OFF.
En direct des salons du Novotel avec la web radio du OFF Osmose Radio, j'ai le plaisir et l'avantage de vous présenter le comédien et le metteur en scène de la pièce qui se joue à la Tache d'encre tous les jours à 10h. Je ne me suis pas trompée.
À 12h.
À 12h, je m'étais trompée. Gustave Eiffel, Enfer et contre tous, de et par Alexandre de Limoges. Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Donc vous avez choisi de prendre un personnage connu de tous les Français et pour cause, et né en Bourgogne, je dis, parce que je suis bourguignonne, donc ça c'était ma petite... Il est né à Dijon.
Il est né à Dijon. Sa famille allemande a déménagé parce que sa maman avait créé une entreprise de charbon. Gros succès, ils ont déménagé à Dijon. Voilà, la famille a suivi la mère. C'est la mère qui a apporté la fortune à la famille,
figurez-vous. D'accord. Et Gustave, donc, il est ingénieur. Un peu plus tard, il devient ingénieur.
Oui.
Il a sa propre compagnie, pas de théâtre.
Mais... Il a fait beaucoup de métiers avant de trouver ça. Il a raté son concours pour Polytechnique. Il s'est dirigé vers la chimie pour reprendre l'affaire de son oncle Molera. Puis après, ils se sont brouillés avec lui. Et donc, il s'est dirigé vers la métallurgie, finalement. Ça a bien marché.
Mais qu'est-ce qui vous a intéressé pour mettre en scène ce personnage connu de tous les Français et du
Alors,
monde entier
connu,
mais...
sans être connu, hein, parce que...
Bah, on lui doit quand même un bel édifice.
On connaît la Tour Eiffel,
oui.
Mais
on connaît
mal
le
l'homme.
Oui.
On connaît à peine son nom. On sait à peine qu'il s'appelait Gustave. Alexandre, d'ailleurs, son vrai nom. On ne sait pas grand-chose de lui. On ne sait pas qu'à cette époque, la France entière en avait après lui, qu'il était détesté par les Français.
Et pourquoi
Alors déjà, vous avez remarqué que tous les visionnaires sont détestés de leur vivant. Alors, c'est un vrai problème, ça, d'ailleurs. On est toujours un peu rétrograde, comme ça. Il était détesté parce qu'on lui a reproché... d'être partie prenante du scandale du Panama. Donc d'être responsable de milliers de suicides. Je ne sais pas si vous connaissez, on ne connaît plus très bien le scandale du Panama, mais c'est comme l'affaire Dreyfus, c'est quand même ça...
Les actions boursières aussi.
Oui, ben c'est ça. On a demandé à des milliers de petits investisseurs de mettre de l'argent dans le projet du Panama pour finalement voler leur argent et arroser les parlementaires, les journalistes pour noyer l'affaire, etc. Et ça, on l'a fait deux fois de suite. Et c'est là que Gustave Eiffel intervient, puisqu'on a fait appel à lui la deuxième fois pour sauver la construction du canal. Et puis, lui, il a travaillé, il a proposé des écluses, enfin, il a proposé un plan, mais il ne savait pas qu'ils allaient recommencer corruption, suicide, meurtre, etc. Donc, la France entière, les Français à ce moment-là, qui avaient fait confiance en Gustave Eiffel, lui en ont voulu parce qu'ils ont cru que c'est lui qui avait orchestré ce deuxième vol, quoi.
Alors que vous vous attachez donc quand même à l'homme, donc l'ingénieur, le visionnaire, le génie de Gustave Eiffel, son côté aussi extrêmement social, c'était quelqu'un
c'est le premier patron de gauche, on peut dire.
Oui.
On est quelques décennies après Karl Marx, mais on peut dire que par exemple, c'est le premier chantier monumental, gigantesque, mondial, qui n'a fait aucun mort.
C'est quand même à souligner, hein, parce que le projet était titanesque. Hein,
voilà. Si on regarde le château de Versailles, plus de 100 000 morts, etc. Là, c'est quand même une tour, donc extrêmement dangereux. Mais voilà, aucun mort. Pourquoi ? Parce qu'il s'est soucié du bien-être de cette entreprise, on peut dire. Et entre autres, il a compris qu'il fallait faire attention aux ouvriers.
Oui, alors la sécurité.
La sécurité, il a inventé la sécurité au travail, il a inventé les cantines sur le travail.
La restauration sur place, voilà,
ça. D'autant que deux étages, ça mettait presque une heure aller-retour le midi, donc on perdait du temps et de l'énergie. Mais donc il était assez pragmatique, mais il se souciait quand même de leur bien-être. Cette cantine était beaucoup moins chère, par exemple, que les troquets d'en bas. En gros, il a inventé le management.
C'est ça.
On peut le dire comme ça. Et d'ailleurs, on peut trouver dans le rayon FNAC
la Bonne Ville d'Avignon.
Du management. On peut trouver un petit livre qui s'appelle « Comment piloter son entreprise comme Gustave Eiffel ». C'est vraiment une référence encore aujourd'hui. Voilà, donc il a inventé le management, il a inventé des tas de progrès sociaux, il a inventé la sécurité, comme on disait, au travail. Et puis il a inventé un autre élément important pour la suite de la France, qui est le montage en kit.
Ah,
une espèce de Ikea de la construction monumentale. Donc, partout où vous pouvez aller, presque dans le monde, vous allez trouver des ponts, des églises, des moulins, des écluses, enfin des tas de choses sur Gustave Eiffel, construites par Gustave Eiffel, mais où il n'est jamais allé. Il a envoyé des éléments avec des notices d'emploi, comme ça, et puis sur place, on construisait. Voilà, Ikea.
Et alors, pourquoi ce choix de Gustave Eiffel ? Parce que j'ai lu aussi que vous étiez très intéressé par les biographies. D'ailleurs, vous allez mettre en scène vie de Joséphine Baker, c'est ça ?
Oui, je ne sais pas dans quel ordre, parce que ça met quand même 2-3 ans à écrire quelque chose comme ça. J'en ai plusieurs en route. Il y a Joséphine Baker, il y a Louise Michel, il y a Walt Disney... qui est en train de prendre le pas sur le reste, je ne sais pas pourquoi.
Mais à chaque fois, vous prenez quand même des personnages aussi qui ont été contestés dans l'histoire.
Ah oui, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils étaient visionnaires aussi.
Complètement décriés comme visionnaires, mais bon, je regardais un petit peu ce qui s'était passé autour de Gustave Eiffel. Il y a eu, on lui a fait des pamphlets, même les écrivains de l'époque l'ont un peu mitraillé.
Après, les artistes, qui étaient en vogue dans les années 1850. 50-60, sous Napoléon III, l'ont détesté, Maupassant, Verlaine, Zola,
Sandra
Baudelaire.
Aussi
énormément d'artistes. Certains qu'on ne connaît plus forcément aujourd'hui, mais à cette époque, c'était vraiment énorme. Je dirais presque seulement Gauguin l'a défendu. Et d'ailleurs, quand on visite le viaduc de Garabit, qui est censé être qui est considéré un peu comme son chef-d'œuvre en France, le pont chef-d'œuvre de Gustave Eiffel, et ben il est peint en rouge Gauguin actuellement.
D'accord.
Et rouge Gauguin, qui est la couleur finalement qu'avait la Tour Eiffel quand elle a été inaugurée.
Alors comment vous vous y prenez sur scène pour représenter Gustave Eiffel ?
J'enfile un costume.
Détail, vous enfilez un costume.
J'enfile un costume de l'époque.
De l'époque, avec la montre à gousset au troisième bouton.
Sûr.
Vous êtes donc très rigoureux sur l'époque. Hein. Détail lié à l'époque.
Comme à l'époque, vraiment, c'est ça.
On a des
boutons de manchette, des petits boutons de nacre qu'on met pour tenir le col dur, et puis un petit nœud papillon derrière. Bon... Voilà, oui, il y a un sens du détail. C'est Jeff Castin qui a fait le costume, qui est à Paris
s'est appuyé sur les documents de l'époque.
Voilà, c'est un costumier historique. Donc,
il connaît son métier.
Il connaît très bien son métier. Il l'a fait parfaitement bien, là, on peut dire. Et puis, en plus, il fait tellement chaud sur scène. Eh bien, ça, c'est un élément qu'il a réussi à enlever. Il ne fait pas chaud quand on est sur scène grâce à lui. Vous voyez, je suis très reconnaissant. Mais voilà, j'enfile un costume et puis je joue... Gustave Eiffel.
Vous jouez à partir d'une anecdote, c'est ça ?
Alors, en réalité, on va partir d'une grève. Voilà, on est sur une deuxième grève. Il y en a eu une en septembre 88. On est en décembre 88 et ils refont une grève. Alors, Gustave Eiffel ne comprend pas, puisqu'en plus, il leur a donné entièrement satisfaction au mois de septembre. Donc, en décembre, à 3 mois de l'inauguration, il ne comprend pas. Alors, la discussion, le spectacle, c'est cette discussion avec le public. Pourquoi encore une grève ? 3 mois après celle de septembre, et puis pourquoi une grève donc là à 3 mois de la fin. On cherche différentes raisons, ce qui est le prétexte à revoir toute la construction, l'histoire du chantier, et surtout l'histoire de Gustave Eiffel, et je dirais plus largement tout le 19e siècle.
D'accord.
Voilà,
la révolution industrielle, les choses comme ça.
Voilà. Ils sentent ces ouvriers à la fois le vent tourner, c'est-à-dire qu'elle devient très très populaire ou mal populaire, mais peu importe, elle devient. On ne parle que d'elle, donc ils sont un petit peu jaloux à la limite. Et puis ils sentent aussi le vent tourner parce que le Panama arrive. Donc si on peut écraser le patron un peu plus, pourquoi pas.
Donc, à partir de ça, vous faites quand même toute une rétrospective à la fois sur l'époque, à la fois sur
la révolution industrielle, la naissance du syndicalisme et du patronat, du coup. Après la révolution, c'était fini la noblesse, bienvenue patronat. Hein.
Bien sûr.
Donc, y a une autre révolution dont on ne parle pas beaucoup dans le spectacle, et d'ailleurs qu'on connaît très mal, qui est 1848. C'est quand même la naissance justement du syndicalisme, du féminisme, de l'engagement des Français pour la politique. Et là, ils commencent à y croire. À chaque fois qu'on a une grosse révolution, de toute façon, on met 50 ans de coups d'État, de dictature, etc. Bah, on voit le printemps arabe, hein, avant que ça commence à se structurer. Voilà. Donc on parle de tout le 19e siècle, le scandale du Panama, donc on l'a dit.
Et vous le faites sur quel mode, Alexandre ? Sur un mode de... vous jouez Gustave, vous le faites sur un mode narratif,
alors,
vous alternez ?
Alors je suis le personnage,
oui.
Comme je vous ai dit, j'enfile
oui,
ce costume, mais je ne suis pas à l'identique. Donc je ne suis pas barbu, je n'apparais pas comme un monsieur de 60 ans, pas du tout. C'est un spectacle d'ailleurs qui aurait pu être joué par une femme aussi. Hein. L'idée c'est vraiment d'enfiler un costume, ça va être pareil pour les suivants, pour les seuls en scène que je suis en train d'écrire. C'est vraiment, on enfile un costume et on s'approprie le personnage, on s'approprie ses émotions. Voilà, c'est ça qui est important. Donc là je m'approprie complètement ses doutes, sa fierté, sa dureté. Voilà. Bon.
C'est dur de parce qu'il a fallu que vous engrangiez un certain nombre d'informations au départ pour pouvoir mettre en scène aussi tout ce que vous avez lu, tout ce que vous
il
avez
a fallu lire
recherché.
Beaucoup, oui. Rechercher, alors sur Internet beaucoup évidemment, lire des livres énormément évidemment. Il y a un petit parti pris parce que tous les livres qu'on trouve sur Gustave Eiffel sont édités par la famille Eiffel. Donc c'était parfois, il fallait aller chercher un petit peu ailleurs. On trouve d'ailleurs sur Internet des forums avec la famille Eiffel, avec des amoureux d'Eiffel et puis des amoureux de Lesseps ou des amoureux de Koechlin, donc ces ingénieurs qui ont inventé finalement la tour, qui se battent sur Internet sur des forums. Ça c'est marrant. Alors du coup, ça permet de voir toutes les visions. Ça a mis à peu près 2 ans à écrire.
Qu'après, il faut condenser ça pour que ce soit une pièce de théâtre.
Oui, oui, voilà. Donc... Ben là, il y avait tous les éléments dramatiques. Hein. Voilà, il a perdu sa femme très tôt et il était assez intègre par rapport à cet amour.
T'es pas remarié ?
Non, non, non. Un homme voilà, qui s'est entouré de sa fille, du coup, c'est sa fille Claire qui a pris le relais, qui l'a suivi partout jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, tous ces aspects, finalement, faisaient une pièce toute faite. Si on la met au bon moment, bon là c'est 1888, c'est un moment un peu critique pour lui, qui est l'occasion de se remettre en question, donc d'expliquer sa vie. Voilà. Et mon intérêt, c'était de parler au public de sa vie, mais en tant que Gustave Eiffel.
Et oui, et puis à travers lui, donc, le public est amené aussi à revoir une grande page d'histoire quand même.
Oui, et puis c'est assez vivant.
Bouleversements
parce que...
ah oui, de
oui,
tous
mais,
ordres.
Mais le 19e, c'est hyper important. C'est une période 1830-1880 à peu près où on a inventé les 9 dixièmes de ce qui se passe, ce dans quoi on vit aujourd'hui. Donc entre 1880-1980, il s'est quasiment rien passé en termes d'invention technologique.
On est bien d'accord, d'accord.
Et après, il y a l'ère numérique qui arrive, ça c'est une autre révolution.
Oui, bah, on verra ça.
Dont on parle.
Oui, bah, bien sûr, on en parlera l'année prochaine, vous reviendrez si ce n'est pas Joséphine, si c'est pas...
Alors l'année prochaine, ce sera encore Gustave.
Oui, mais c'est bien. Est-ce qu'on apprend à votre spectacle que cette fameuse tour Eiffel, elle était supposée être démontée ? Il n'était pas prévu qu'elle reste
elle était construite
de façon définitive ?
Non, c'est ça. Elle était construite pour l'exposition.
Remblayée.
On reprend toute l'histoire de la construction avec multiples rebondissements
un projet faramineux quand même. Il fallait vraiment qu'il pense qu'il
pense ça. Il a coûté 8 millions alors qu'il devait en coûter 2. Parce qu'effectivement, bah, comme vous avez dit, hein, les piliers nord se sont enfoncés dans la vase, pompe foulante, vérin hydraulique, voilà, on a construit, il a inventé tout un tas de choses auxquelles d'ailleurs personne ne croyait non plus. Hein, on ne le sait pas, mais la tour Eiffel, elle est suspendue sur de l'air comprimé un peu. Hein.
Maintenant, on le sait.
Maintenant, on le sait. Voilà, oui, il y a eu plein de difficultés. Les journalistes qui ont cassé complètement, et les politiques à l'époque, ça, la construction. Les artistes, évidemment, qui se sont ligués et qui ont failli gagner. C'est finalement les journalistes qui sont venus, qui ont défendu et qui ont renversé l'opinion publique, qui ont sauvé la tour. Alors, elle devait être construite pour l'exposition universelle de Paris, donc 1889, durée 20 ans. Avec tout bénéfice pour Gustave Eiffel, ce qui est un bon coup, hein, puisqu'au bout d'un an, il est rentré dans ses frais, donc il en a bien profité après. Et puis finalement, cette tour s'est révélée utile pour la suite. Il a réussi à prolonger un petit peu le sursis. Et puis, bah, heureusement, bah, pendant la guerre, cette tour a servi à multiples expériences, puis à envoyer des taxis dans la Marne, à décrypter à prendre des messages allemands. Ils n'étaient pas cryptés, donc c'est juste qu'on les a entendus grâce à elle. Matahari, l'arrestation de l'espionne, etc. Bon, tout ça grâce à la tour. Alors du coup, ben, on s'est dit, elle est utile. Et puis elle est encore, hein, puisque elle
sert de... pour d'autres raisons.
Pour
maintenant,
d'autres raisons, voilà.
Et moi, j'aime bien vous entendre parler parce que je vous sens complètement... Vous êtes attaché à ce personnage puisque vous ne l'avez pas choisi non plus par hasard. Et puis vous êtes très investi là.
Alors,
on vous sent
choses,
même au micro là.
Alors oui, ben, parce que bon, d'abord, j'adore l'histoire. L'histoire, j'adore le 19e siècle. Ce n'était pas ma période préférée, mais quand je me suis mis à écrire ce spectacle, je me suis passionné encore plus pour cette période. Et puis, donc, je suis plutôt un historien ou un archéologue contrarié.
Oui, contrarié, vous l'avez dit, oui.
Bah oui, c'est, on fait ce qu'on peut.
Mais vous êtes un comédien réussi.
Ben, je ne sais pas, j'espère,
apparemment,
le public.
Hein.
Bah, jusque-là, on complète. Donc on croise les doigts pour que ça continue comme ça. En tout cas, j'adore l'histoire. Et puis, il se trouve qu'au moment où j'ai écrit Gustave Eiffel, j'étais en train de vivre des petites histoires dans ma vie privée, similaire, entre autres un procès comme lui, gagné, mais très douloureux, parfaitement injuste. J'en avais très très lourd sur la patate. Et j'avais même décidé d'ailleurs de tout arrêter. Comme Gus avait fait, là, exactement.
Mais c'était dommage hein, quand même, pour nous spectateurs.
Donc c'est Gus Eiffel qui m'a sauvé, on peut dire, de la scène.
Bah, écoutez, alors bah, c'est formidable. En tous les cas, vous avez une telle fougue quand vous en parlez. C'est tellement... Si, vous en parlez bien, Alexandre de Limoges.
Bah, c'est gentil.
Vous savez que on s'en passe très vite. Je l'ai dit, hein, on est quasiment sur le départ là. Mais on va se revoir. Hein. Alors, Gustave Eiffel, Enfer et contre tous. Vous jouez tous les jours à la tâche d'encre. Il y a des relâches?
Non, il n'y a pas de relâche.
Il n'y a pas de relâche. Donc la tâche d'encre, c'est très facile à trouver parce que c'est une petite rue qui est perpendiculaire au Teinturier. Donc un quartier extrêmement stratégique et connu d'Avignon. Gustave Eiffel, Enfer et contre tous, tous les jours à la tâche d'encre à 12h. C'est mis en scène et joué par Alexandre de Limoges. Donc je ne peux que vous conseiller de vous y ruer. Parce que je pense qu'on apprend beaucoup. Et puis, je pense que vous nous avez, là, au micro, vous venez de nous en apprendre beaucoup. Et puis, vous êtes un beau Gustave Eiffel. Moi, je peux le dire, j'ai le droit. Donc, en attendant que Gustave Eiffel revienne l'année prochaine, pourquoi pas, et Joséphine Baker plus tard, et Walt Disney plus tard. Alors, Walt Disney, il y a des choses à dire.
Hein, il y a beaucoup de choses à dire. Et beaucoup de gens l'aiment, mais on ne le connaît pas, pareil.
Il y a des choses aussi très, très, un peu... Bon,
très subversives. Voilà. Ah, oui. Vivement.
Vivement.
Alors, je dois dire que j'ai écrit le spectacle et je le joue. La mise en scène, bon, c'est moi qui l'ai faite, mais j'ai été très aidé par Robert Kinner.
Eh bien, on le remercie aussi. Merci beaucoup, Alexandre, d'être venu nous voir. On vous souhaite tout le succès. On vous souhaite les salles pleines jusqu'à la fin, jusqu'au 29 juillet. Et puis, on vous souhaite de porter cette pièce dans l'Hexagone, hors de l'Hexagone. Et vous êtes un beau représentant de Gustave Eiffel qui doit être très fier de vous.
J'espère.
Merci beaucoup d'être venu. Merci.